Bonjour. Une épuration ethnique à bas bruit est-elle en train, dans certains quartiers, de frapper les Juifs de France? Une partie de la gauche radicale est-elle contaminée par un antisémitisme qui se donnerait l'alibi de l'antisionisme? Telles sont certaines des accusations assez tonitruantes d'un manifeste très largement médiatisé en ce début de semaine. Alors, ce manifeste ne crie-t-il pas très fort dans le but de se faire entendre? Et faut-il crier très fort dans le but de se faire entendre? Ce sont les questions de cette émission avec nos trois invités d'aujourd'hui, Linda.
Oui, alors Nona Meyer, bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS Sciences Po. Vous analysez tous les ans les sondages de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur le racisme, sur lesquels de nombreux chercheurs se fondent pour évaluer l'antisémitisme. Et vous êtes auteur de « Mesurer le racisme » paru en 2017. Je précise que vous n'avez pas signé ce manifeste. Sylvain Attal, bonjour. Vous êtes journaliste. Vous venez tout juste de quitter la chaîne France 24. Vous avez publié, vous, en 2004, La Plaie, une enquête sur le nouvel antisémitisme. Et vous non plus, vous n'avez pas signé le manifeste. En revanche, on va accueillir dans quelques minutes Noémie Alioua, qui, elle, a signé ce manifeste. Elle est journaliste au magazine Actualité juive. Elle est co-auteure d'un livre collectif, Le nouvel antisémitisme en France, qui, justement, a accompagné ce manifeste. Et je précise qu'elle est également l'auteur d'un livre « Enquête sur l'affaire Sarah Halimi », cette femme juive de 65 ans, tuée il y a un an à Paris.
– Voilà. Alors, en attendant l'arrivée donc de notre troisième invité, la seule signataire du manifeste sur ce plateau, ce manifeste, exactement, Linda, que dit-il ?
– Alors, ce manifeste, il a été publié le 22 avril dans Le Parisien. Il a été rédigé principalement par Philippe Ball, ancien directeur de Charlie Hebdo, et il a été signé par plus de 250 personnalités, parmi eux des politiques de la gauche et de la droite du gouvernement, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Laurent Wauquiez, des responsables religieux juifs et musulmans, des intellectuels comme Alain Finkielkraut ou encore Elisabeth Badinter, des figures du printemps républicain, Céline Pina, Laurent Bouvet et des artistes comme Gérard Depardieu, Renaud, Françoise Hardy. Alors, que dit ce manifeste exactement? Plusieurs choses. D'abord, il dénonce un silence médiatique autour de l'antisémitisme, alors que, je cite le manifeste, « Dans notre histoire récente, 11 juifs viennent d'être assassinés et certains torturés par des islamistes radicaux parce qu'ils étaient juifs. Les signataires ajoutent que les Français juifs ont 25 fois plus de risques d'être agressés que leurs concitoyens musulmans et que 10% des citoyens juifs d'Île-de-France ont récemment été contraints de déménager parce qu'ils n'étaient plus en sécurité dans certaines cités. Pour eux, il s'agit d'une épuration ethnique à bas bruit et par conséquent, ils demandent, je cite à nouveau, que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques. Pardon. Dès le lendemain de sa parution, le texte a suscité une vague de réactions. Ici, il a reçu beaucoup de soutien, il a été aussi beaucoup critiqué. Le journaliste Claude Askolovitch a été le premier à réagir dans une tribune publiée sur le média en ligne Slate. Et il reproche principalement à ce manifeste une logique dévastatrice et une mise en accusation des musulmans. L'imam de la grande mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, s'est insurgé. Pour lui, dire que le Coran appelle au meurtre est une ineptie. Depuis, la polémique ne cesse de enfler. Alors, fallait-il signer ou pas ce manifeste? La question a fait le tour des plateaux télé. On va regarder.
Cette tribune hier dans Le Parisien sur le nouvel antisémitisme, est-ce que vous l'auriez signé?
Je l'aurais signé en sachant que Marine Le Pen dit cela depuis maintenant pratiquement 10 ans, hein, et qu'au départ on disait c'est islamophobe que de penser cela.
Donc, cette tribune, vous ne pourriez pas la signer en tant que telle?
Non, parce que encore une fois, on ne peut pas, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, à quelque part, oui, faire du racisme anti-musulman, c'est ce que fait cette tribune.
Oui, je l'aurais signé parce que c'est une réalité. Vous avez beaucoup de familles juives qui sont obligées de fuir des quartiers, qui ne peuvent plus scolariser les enfants. J'en ai rencontré, j'ai discuté moi-même avec une de ces familles et c'est inacceptable de vivre ça en France.
Je ne souhaite pas signer ce document-là parce que je pense qu'il est une provocation qui, effectivement, alimente la haine entre les communautés religieuses.
Vous signez pas parce que vous êtes mal à l'aise avec un certain nombre de formulations et avec l'analyse générale.
Non, mais purification, si c'est quoi le mot? Je veux pas le déformer.
Épuration ethnique à bas bruit.
Moi, j'aime pas. Je suis attaché à l'histoire de ce pays. C'est des mots tellement forts que bien souvent, enfin voilà, que ça me semble maladroit. Et puis après, il y a une fois de plus un petit côté.
le musulman suspect qui me semble être un peu... voilà.
Mais vous partagez cet appel ?
J'aurais pas signé.
La justification de cet appel ?
Non, je n'ai pas été saisi, ni on ne me l'a pas proposé, mais j'aurais pas signé.
Est-ce que vous auriez pu signer ce texte, Nicole Belloubet ?
Oui, sans doute, sans doute.
Moi, je suis entièrement en désaccord avec cette tribune-là. On pourrait discuter de la lutte contre toutes les formes de racisme. Il faudrait discuter de la bataille.
Vous y voyez-vous ?
Il y a quand même un point pour le coup.
Parce que c'est une réalité.
À dire que c'est l'islam, n'est-ce pas, le Coran qui soit la cause de toute cette haine du judaïsme, nous sommes surpris par tant d'ignorance. C'est très difficile de trouver un livre aussi ouvert sur les religions, sur la paix et sur le genre humain que ce dernier texte monothéiste qu'est le Coran.
Voilà, alors toutes sortes d'arguments qu'on va essayer de serrer tout au long de cette émission pour les examiner les uns après les autres, qui poussaient à signer ou à ne pas signer. Alors Linda a cassé le suspense, donc je ne vais pas vous demander si vous l'auriez signé, enfin en tout cas vous ne l'avez pas signé. Sylvain Attal, on vous a proposé de le signer ce manifeste ?
Non, on ne m'a pas proposé de le signer, mais ce n'est pas pour ça que je ne l'ai pas signé, j'aurais pu le signer après.
Vous ne l'auriez pas signé de toute façon, et pour quelle raison ne l'auriez-vous pas signé ?
D'abord, il y a deux choses. D'abord, je trouve que c'est quand même un texte qui est sciencialise beaucoup. C'est-à-dire que si on veut pouvoir dire, et il faut le dire, qu'il y a quelque chose dans l'islam, y compris dans le Coran, qui effectivement porte des germes d'antisémitisme, on ne peut pas montrer du doigt toute la communauté musulmane comme le fait ce texte-là, parce que dans la communauté musulmane, il y a des laïcs, il y a des gens qui prennent ce qu'ils ont envie de prendre dans le Coran, enfin comme dans toute religion, vous voyez ce que je veux dire. Alors là, je trouvais que ce texte a donné un petit peu l'impression de viser tout le monde de manière indiscriminée.
Est-ce qu'il aurait fallu y ajouter quelque chose, en retrancher quelque chose, selon vous ?
C'est plutôt les formules, comme par exemple, effectivement, épuration ethnique.
Épuration ethnique à bas bruit.
Alors qu'il y a une réalité, encore une fois, et il suffisait d'exposer les faits et la réalité, c'est-à-dire, on pourrait dire, un grand déménagement, ce qui est déjà très inquiétant et très grave. Ce qui est déjà très inquiétant et très grave. Effectivement, on a les chiffres de 50 000 juifs, enfin, en termes de familles, c'est plusieurs milliers de familles qui ont quitté ces endroits de Seine-Saint-Denis, essentiellement, type Aulnay-sous-Bois, Blanc-Ménil, etc.
Pour aller habiter ailleurs en France, là, pour être très clair, on ne parle pas des départs vers Israël.
Non, ailleurs en France, où il y a eu des transferts, par exemple, dans un premier temps, vers le 19e arrondissement, puis vers le 17e, mais ça continue parce que le 19e arrondissement est aussi gagné par ça. C'est même plus seulement les périphéries, les départs en Israël, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Enfin voilà, il y a toutes sortes de manière très inquiétante. Et ça avait déjà commencé quand j'ai écrit mon livre, parce que ça a commencé par l'école. À partir du moment où les enfants ne pouvaient plus être scolarisés dans l'école publique, ceux qui avaient un peu de moyens les mettaient dans des écoles privées, et ceux qui ne les avaient pas, partaient en Israël.
Excusez-moi, je ne comprends pas. Si le phénomène a commencé dès 2004, année où vous avez écrit votre livre, et si vous attestez qu'effectivement il y a, alors sans l'appeler épuration ethnique, mais il y a quand même un grand déménagement, c'est ce que vous dites, qu'est-ce qui vous gêne dans le texte alors ?
Les termes, les mots ont une importance. Épuration ethnique, ça veut dire qu'il y aurait une sorte de dessin, si vous voulez, un peu des musulmans, organisé, on pourrait dire même ça verse un peu dans la théorie du complot quelque part aussi, qui est quand même tellement une des bases de l'antisémitisme qu'on ne peut pas tomber aussi dans une théorie du complot pour expliquer. Voilà. Bon. Donc non, et peut-être c'est une déformation professionnelle journalistique qui fait que je ne suis pas très fanat des pétitions en général. Mais donc je regarde précisément ce qui est dit, et s'il y a des choses qui me gênent, je ne signe pas.
Nana Mayer, si on vous l'avait proposé ?
Non, parce que par définition, je signe peu de pétitions. Je pense que ce n'est pas mon rôle. Moi, je fais de la recherche, donc j'essaie de ne pas m'engager de cette manière. Si je veux défendre, il y a un phénomène d'antisémitisme, ça c'est indéniable. Mais à ce moment-là, je participerai plutôt anonymement aux manifestations de protestation, plutôt que d'étaler mon nom dans un journal. Ça, c'est le premier point.
Et investir votre autorité de chercheuse.
Oui, ceci dit, compte tenu de ce texte, il était hors de question.
Voilà.
Parce que, justement, ça ne correspondait pas aux critères de la recherche. D'abord, on garde une certaine neutralité, on garde un certain sens de la mesure. Je ne suis évidemment pas d'accord avec l'usage d'un terme outrancier comme épuration ethnique. Mais au-delà, il y a une utilisation des chiffres que je trouve imprudente.
Alors, par exemple,
qui sont sensationnalistes. Hein, surtout cette phrase, 25 fois plus de chances pour une personne juive d'être agressée qu'une personne musulmane. Rien ne permet de dire une chose pareille. Moi, je suis à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où chaque année, on travaille à ce rapport pour faire un bilan de toutes les formes de racisme. Et donc, on reçoit les services de la police et on voit très bien leurs difficultés, ils nous le disent eux-mêmes, à mesurer précisément les agressions, pas seulement antisémites, hein, mais contre toutes les minorités. Pourquoi ? eh bien, on constate, quand on fait une enquête de victimation, que 17% seulement, même 3-4% des menaces racistes ou antisémites font l'objet d'une plainte. C'est 3%. Les insultes, 3%. Les menaces, c'est 17%. Et les violences et les agressions, c'est 31%. Autrement dit, dans la réalité, ces chiffres ne correspondent à rien.
Alors attendez, excusez-moi, parce que vous êtes en train de me dire, là, si je comprends bien, qu'on ne peut pas mesurer
pour l'instant,
en France aujourd'hui,
les
violences antisémites. Alors oui. Moi, je lis un article paru sur un blog de Mediapart de Dominique Vidal qui nous explique que les violences anti-juives, après un pic au début du siècle, ont connu depuis une décrue progressive confirmée en 2017.
Absolument.
Alors, on peut mesurer ou on ne peut pas ?
On a des chiffres et la police nous dit de les prendre avec précaution. Quels sont ces chiffres ?
Oui.
C'est le SCRT, c'est un service de renseignement statistique, j'ai oublié exactement ce que veut dire ces initiales, mais tous les ans… –
Mais qui dépend du ministère de l'Intérieur.
– Oui, et il y a deux services, mais celui qui permet de dire ce sont des actes à motivation antisémite, ce sont des actes à motivation anti-musulmane ou autre, c'est ce service-là. Et en fait, il s'est appuyé sur la remontée des dépôts de plaintes, là dans lesquels on précise exactement la motivation de l'agression.
Donc, c'est des chiffres de la police, c'est
oui.
Des chiffres du ministère de l'Intérieur.
Ils distinguent deux types d'actes, les violences, agressions physiques contre les personnes et atteintes contre les biens, et les menaces, je veux dire intimidation, tract, graffiti. Et effectivement, à partir de là, on a une toute petite partie de la réalité qui est recensé. Mais ils disent deux choses.
Mais qui permet peut-être, pardonnez-moi, de mesurer des évolutions, c'est-à-dire des augmentations
oui.
ou des diminutions.
Avec deux problèmes. D'abord, il y a un certain nombre de victimes qui ne portent pas plainte.
Okay.
Ensuite, il y a des commissariats qui sont plus ou moins capables, désireux de prendre ces plaintes. Ensuite, il y a des catégories de la population pour qui c'est plus difficile d'aller au commissariat. On ne peut pas comparer.
La décrue des menaces est réelle, il y a des menaces,
mais les actes augmentent.
Ah.
Les actes de violence, eux, ont augmenté.
Parce qu'on passe à l'acte directement.
Oui, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors,
si je prends uniquement les violences,
oui. Hein, vous avez quelque chose comme 96 ou 97 actes de violence dirigé contre les Juifs ou contre des personnes présumées juives pendant l'année qui vient de s'écouler. Ça a augmenté en 2017, voilà.
Ah,
contre 72 contre les personnes de religion musulmane. Bah,
attendez, moi je relis ce fameux papier de Dominique Vidal, il me parle bien d'une décrue en 2017, d'une décrue confirmée en 2017.
De la somme des actes et des menaces. Il y a une fantastique décrue entre 2016 et 2017. En fait, on a atteint un pic en 2014. 2014 a été une année où vous avez eu la manifestation Jour de colère, vous avez eu des manifestations… –
Donc liées au conflit proche-oriental.
– Non, Jour de colère était d'abord une manifestation contre François Hollande, mais qui avait réuni des sensibilités très différentes, de l'extrême droite identitaire d'un côté et de fans de Dieudonné et de Soral de l'autre. Donc c'était… Et on a entendu là des slogans antisémites qu'on n'avait pas entendus depuis les années 30. Mais ce n'était pas au départ une manifestation antisémite.
– D'ailleurs, ça c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je ne l'ai pas signé, c'est que ce texte exempte complètement toute l'extrême droite type Soral,
Dieudonné,
etc.
L'extrême droite à la
et il y a, comme on dit, les extrêmes se rejoignent. Et effectivement, sur ces sujets-là, on a vu, c'était absolument patent.
Alors, toujours
mais sur les chiffres, je peux dire que
oui,
je pense qu'il faut regarder quand même la tendance longue. Moi, je respecte beaucoup le travail des chercheurs et c'est utile quand on était journaliste qui vient des statistiques officielles. En plus, on sait que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques en France. Mais il y a aussi le problème de l'enquête journalistique, c'est d'aller au-devant, de prendre le sentiment des gens qui vous donnent une réalité qui fait qu'il est incontestable, même si c'est vrai qu'il y a eu, c'était un peu en dents de scie, il y a eu des années où ça s'est calmé, puis après c'est remonté, c'est lié un peu à l'actualité, c'est lié à des choses comme ça, mais la tendance longue, si on la lisse, fait que c'est indiscutable, depuis une quinzaine d'années, il y a une explosion des sentiments anti-juifs, et maintenant des actes anti-juifs. À l'époque où j'écrivais ce bouquin, il n'y avait pas de crime, c'était des incivilités, des insultes, des expulsions de l'école, etc. Maintenant, on a comme 11...
Alors, les 11, on va venir sur les 11, oui. Et on va examiner les meurtres, de très près, les meurtres de Mireille Knoll et de Sarah Halimi, parce que c'était extrêmement intéressant. Le seul souci, c'est qu'on voulait le faire justement avec notre troisième invitée, qui est encore absente et qui a consacré un livre à... Non, mais elle est là. Eh bien, elle va entrer. Alors, donc, nous accueillons notre troisième invité, Noémie Allioir. On vous a présenté au début de l'émission, journaliste à l'actualité juive, c'est ça ?
Absolument.
Auteur d'un livre donc, sur le meurtre de Sarah Halimi. On a commencé cette émission par quelques considérations statistiques générales sur les actes, les violences, les menaces antisémites en France. Et on va donc, avec vous, passer au cas particulier des 11 morts qui sont énoncés par le manifeste que vous avez signé sur le nouvel antisémitisme. Donc, qui sont ces 11 morts, Linda ?
Alors oui, vous l'avez dit, ces 11 morts sont évoqués dans ce manifeste, mais les noms des victimes ne sont pas cités. Il s'agit des victimes des attentats terroristes, l'un perpétré en 2012 par Mohamed Merah dans une école juive à Toulouse, et l'autre, 3 ans plus tard, dans un hypercacher à Paris. Mais pas seulement, le texte fait référence également à 2 autres meurtres, celui de Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans. Elle a été défenestrée en avril 2017 à Paris, mais on y reviendra plus tard. Tout récemment, en mars dernier, Mireille Knoll, une octogénaire, a également été tuée par plusieurs coups de couteau à son domicile. Le meurtre a suscité beaucoup d'émotions et le caractère antisémite du meurtre n'a semblé faire aucun doute. On regarde quelques extraits.
Mesurez ce que ça signifie comme ignominie de tuer une vieille femme, quel qu'en soit le motif. Mais là, on s'interroge sur le motif et donc on en arrive à ceci, une vieille femme à Paris est assassinée par 2 fanatiques. Pour quelle raison ? Parce qu'elle était juive. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ?
Jamais aucun geste antisémite ne peut être accepté, et celui qui conduit à assassiner une dame âgée sans autre raison que celle qu'elle soit juive est totalement inacceptable.
En 2018, une juive de 85 ans, rescapée de la Shoah, a été massacrée de 11 coups de couteau en plein Paris, avenue Philocoïs, manifestement aussi parce qu'elle était juive.
Mireille Knoll, cette octogénaire tuée chez elle parce qu'elle était juive.
Mireille Knoll, rescapée de la rafle du Vel d'Hiv et qui a été tuée chez elle parce que de confession juive, c'est en tout cas la piste retenue par la justice.
Il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive.
Alors, Linda, parce qu'elle était juive, aussi parce qu'elle était juive, quels sont les éléments qui permettent de dire que ce meurtre est un meurtre antisémite ?
Alors, le parquet s'est fondé principalement sur les déclarations des 2 mises en examen, Yacine M et Alex C, pour retenir le caractère antisémite. D'après Europe 1, les 2 suspects s'étaient rencontrés en prison et ils s'étaient retrouvés dans l'après-midi pour boire un verre et discuter avec Mireille Knoll chez elle. L'un d'eux, Yacine, aurait alors prétendu que les Juifs ont une bonne situation, ce que Mireille Knoll, qui vivait modestement, aurait contesté. C'est là qu'aurait débuté un enchaînement de violences menant au meurtre. Alex C accuse également Yacine M d'avoir crié « Allah Akbar » en poignardant Mireille Knoll, mais le motif antisémite du meurtre n'est pas fermement établi. Certains médias ont avancé des éléments qui pourraient aboutir à conclure au crime crapuleux. Yacine est un voisin qui entretenait de bonnes relations avec Mireille Knoll, mais il était alcoolique, il était connu pour des faits de délinquance, il a été condamné d'ailleurs pour agression sexuelle, et c'est en prison qu'il a fait donc cette rencontre avec Alex C, également connu pour des faits de délinquance. Alors à l'heure actuelle, l'affaire est en cours, et ce sont des enquêtes qui vont permettre d'établir s'il s'agit d'un acte antisémite ou non.
– Et l'instruction vient de commencer, en tout cas le mobile antisémite a été retenu très vite par toute la classe politique, on vient de voir le montage là.
– Et surtout par le parquet.
– Par la justice,
bah oui,
et a commencé par le parquet d'ailleurs. –
A commencé par le parquet, si les politiques ont réagi ensuite, s'il y a eu un emballement médiatique, s'il y a eu cette marche, s'il y a eu tout ce qui s'est passé ensuite comme réaction, c'est parce que le parquet a retenu le caractère antisémite. En principe, on se dit que le parquet a des éléments qui vont étayer cette piste, en tout
Alors,
cas.
On parle de présomption grave et concordante, c'est-à-dire que pour qu'une information soit ouverte et pour qu'elle soit ouverte sur un chef particulier, il faut en effet que le parquet, on va dire, est à sa disposition des... suppose qu'effectivement, il puisse y avoir un... Et là on a donné les éléments. Alors, moi, je ne vais pas vous interroger sur l'affaire Mireille Knoll, puisque vous avez travaillé sur l'affaire Sarah Halimi. Alors, une interprétation qu'on peut faire, effectivement, de l'application décision du parquet à retenir le caractère antisémite, c'est qu'ils aient voulu, pour le dire trivialement, se racheter de l'affaire Sarah Halimi dans laquelle ils ont tardé. C'est une interprétation que vous faites ?
C'est assez terrible, mais c'est une interprétation que je fais aussi. Je rappelle brièvement l'affaire Sarah Halimi. Donc c'est cette femme, une retraitée aussi, qui vit chez elle, qui vit dans le 11e arrondissement de Paris, et qui, dans la nuit du 3 au 4 avril, donc à quelques jours du premier tour des élections présidentielles, qui est assassinée dans des conditions extrêmement barbares, au cri d'Allah Akbar, qui est jetée par la fenêtre. Moi, je travaille pour Actualité Juive, un petit journal, je vais enquêter, etc. Je vais me rendre compte qu'on a quand même pas mal d'éléments qui permettent d'étayer la piste antisémite. Il se trouve que ça crée une énorme douleur dans la communauté juive. On a l'impression que la justice a tardé à réagir, que les médias ne se sont pas saisis de l'affaire. Ça fait une affaire assez, assez tragique. Et 11 mois plus tard, la justice, la juge d'instruction reconnaît le caractère antisémite. La question, c'est de savoir pourquoi elle ne l'avait pas fait plus tôt.
À partir de quel moment, vous êtes persuadé du caractère antisémite du meurtre, et quels sont les éléments qui vous persuadent et vous font dire ben, ça, il n'y a pas de doute. Quoi.
Alors déjà, avant d'être persuadé que c'est antisémite, il faut déjà investiguer. Ne serait-ce se dire, moi je ne me suis pas dit dès le départ, c'est antisémite. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas justement qualifier certaines agressions d'antisémite. Si ce n'est pas vérifié, c'est totalement contre-productif.
C'est la raison pour laquelle je vous demande ce qui vous persuade. Qu'est-ce qui vous persuade? Où est le
déclic? Moi, je ne commence pas cette enquête en me disant, je suis persuadé que c'est antisémite. Je commence cette enquête en me disant, je vais enquêter et je vais me procurer le dossier d'instruction, je vais aller interroger les voisins, je vais récupérer tous les éléments qui sont à ma disposition, si tant est que je vais les chercher.
Et donc,
j'ai compris votre question. Moi, j'en étais persuadée après le premier entretien que Kobili Traoré, donc l'assassin de Sarah Halimi, a eu avec la juge. Et dans cet entretien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, il était ce soir-là, il avait une bouffée délirante et en fait, il était persuadé qu'il avait le diable. Et lorsqu'il arrive chez Sarah Halimi, il voit ce qu'il appelle une menorah. Et là, il se dit, je suis dans la maison du diable. Et ça, l'expert psychiatre l'expliquera très bien dans son expertise.
Excusez-moi, la menorah. Ouais.
C'est un chandelier. Et d'ailleurs, lui, il appelle ça la Torah. C'est-à-dire, pour lui, c'est simplement l'objet juif par excellence. Il dit, c'est une Torah. Évidemment, c'est pas du tout une Torah. Il n'y a pas de Torah chez les gens. Mais pour lui, c'est le symbole juif. Et quand il voit Sarah Halimi, il dit, c'est elle le démon. Et donc, il y a un télescopage. Et ça, c'est les termes de l'expert psychiatre. Il y a un télescopage entre son délire et la thématique antisémite et cet imaginaire selon lequel le juif incarnerait le démon.
Il y a un truc intéressant, Daniel, c'est que souvent, vous entendez souvent ça, on dit « non, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de la bêtise », ou bien on dit « c'est des déséquilibrés ». À chaque fois, c'est avancé pour mettre de côté un peu le motif antisémite. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'un déséquilibré peut aussi être mu par des motifs antisémites ou une poussée de folie sur une menorah, etc., qui va réveiller des choses auxquelles il a été en contact et des préjugés qu'il a entendus. Il y a des gens qui tueront jamais personne, mais qui font des spectacles, par exemple, dans lesquels on véhicule des clichés antisémites, et puis ces gens vont dans les spectacles, et puis les gens qui assistent au spectacle, il y a 90% de gens qui sont normaux, qui vont jamais tuer personne, qui se contenteront peut-être de rire à des blagues antisémites, et puis vous allez avoir 1%, 2%, 3% de gens qui ont été en contact avec ça.
Ce cas est très très intéressant parce qu'effectivement, ce qui est très important dans le dossier, et d'ailleurs dans un très bon article du Monde qui a été publié il y a quelques semaines, c'est effectivement ce que dit cet expert psychiatre Daniel Zaguri. Il dit, alors vous l'avez dit, lui il qualifie l'acte d'un acte délirant et antisémite. Il dit ça, et ce qu'il explique, c'est que le meurtrier n'a pas recherché sa victime pour être massacré parce que juive, mais le fait qu'elle soit juive, là, à ses yeux, immédiatement diabolisé. Et ce qu'on croit comprendre de la psychologie de ce meurtrier, c'est qu'il y a une association très étroite dans son esprit entre la qualité de juif ou de juive et le diable. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, dans les préjugés antisémites habituellement recensés, j'ai envie de dire. Je veux dire, les préjugés antisémites les plus courants, en France et ailleurs, c'est les juifs sont riches, ils ont le pouvoir, ils se tiennent tous.
Enfin,
tout
et ce la qu'on, double allégeance.
Tout ce qu'on veut, ils sont plus israéliens que français, ils ne sont pas patriotes, ouais. etc. Mais les juifs et le diable, c'est un truc que vous aviez déjà…
Jamais, ni dans les entretiens qualitatifs, ni dans les sondages, ça ne fait pas partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces 11 meurtres, il y a un élément qui est l'antisémitisme, mais en même temps, ils sont de nature très différente. Dans deux cas, vous avez un acte, un déséquilibré, un fou, avec circonstance aggravante, qui est l'antisémitisme. Dans un autre cas dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est l'affaire Ilan Halimi, vous avez un acte crapuleux et où on a ciblé une victime parce que les Juifs ont de l'argent. C'était déjà, ils avaient essayé de faire 5 tentatives d'extorsion de fonds, ça n'avait pas marché. Ils disent, bon, avec le Juif, ça va marcher. Donc là, c'est crapuleux et c'est antisémite. Circonstance aggravante, comme disent les juristes. Et je ne mettrai pas exactement sur le même plan. Voilà. L'affaire Mera, et le terrorisme et ce qui s'est passé à l'hypercachère, où là, vous avez en plus une idéologie. Donc, mettre tout cela, comme certains le font, sous la même étiquette islamisme radical, je ne suis pas d'accord. Mais que ce soit des actes antisémites, oui. Mais je dirais que dans la communauté juive aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait encore plus de mal. Parce que là, c'est des meurtres qui sont terribles, qui sont inadmissibles. Mais c'est l'antisémitisme ordinaire au quotidien. Des choses qui ne sont pas nécessairement recensées par la police. C'est qu'on arrache une kippa dans le métro, c'est qu'on crache au visage, c'est qu'on enlève des objets, une mezouza sur la porte qui montre que oui. Cette maison est bénie.
Juste simplement, sur les 11 meurtres là, qui sont amalgamés dans le manifeste que vous avez signé, est-ce que vous entendez ce que nous dit Donna Maier? C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait du même ordre. Déjà, Mera et Koulibaly, alors, c'est un phénomène à part. Mais même entre le meurtre d'Ilan Halimi, tué parce qu'il était juif, lui, et parce que les juifs ont de l'argent. Et parce que les juifs sont réputés avoir de l'argent. Et les deux meurtres de Mireille Knoll et de Sarah Halimi, est-ce que vous entendez quand on vous dit que ce n'est pas tout à fait de même nature, quand même? Vous voyez, l'intention antisémite n'est pas de même nature dans ces trois affaires.
– Mais qu'est-ce que ça change ?–
Je suis assez d'accord avec M. Attal tout à l'heure lorsqu'il disait que le fait d'être déséquilibré, d'avoir des problèmes mentaux et le fait d'être antisémite n'est pas antinomique. Le fait de vouloir de l'argent en se disant que les Juifs ont de l'argent et vouloir tuer un Juif, ce n'est pas antinomique. C'est-à-dire qu'on justifie toujours, lorsqu'on le peut, son crime à venir. La question, c'est de ça. Vous dites qu'ils ne sont pas de même nature et que peut-être Sarah Halimi n'aurait pas été assassinée parce qu'elle était juive. Si on vous écoute, moi je pense que Sarah Halimi a été assassinée parce qu'elle était juive. Et c'est justement parce qu'il s'est dit que c'est la chétane, que c'est elle qui l'a assassinée. Le démon en arabe, il a hurlé chétane dans l'immeuble et il l'a assassinée. Moi, je suis persuadée que si Sarah Halimi n'était pas juive, il ne l'aurait pas assassinée. Et la preuve, c'est que jusque-là, il n'avait jamais assassiné personne. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a un enchaînement de hasards assez incroyable chez elle par hasard et qu'il ne l'a pas ciblée.
Je pense qu'il l'a ciblée. Qu'est-ce que ça change, vous avez demandé? Attendez, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous faire hurler. Mais s'il faut faire un dosage dans les motivations de ces gens, j'ai l'impression que dans les deux meurtres de Sarah Halimi et de Mireille Knoll, on va dire, il y a 90% de maboulerie et 10% d'antisémitisme, ce qui n'est pas le cas dans Ilan Halimi et encore moins dans les actes de terrorisme. Hurler si vous avez envie d'hurler.
Je ne veux pas hurler, voilà. Ce que je vois, c'est qu'est-ce que ça change pour la communauté juive qui se dit, même si c'est 10%, ça peut nous coûter la vie. C'est-à-dire, on peut être une vieille dame dans son appartement qui, en plus, connaissait la vie, qui connaissait l'un des deux auteurs. Il l'avait d'ailleurs défendu dans une de ses affaires, l'affaire Mireille Knoll. Donc, on peut être une vieille dame chez elle qui n'a jamais rien demandé à personne. On peut aller faire ses courses dans un hyper cachère. On peut avoir ses enfants dans une école juive. Et tout ça,
ça change un truc très simple. C'est qu'on peut lutter par l'éducation, par la pédagogie, contre le préjugé antisémite. On ne peut pas lutter contre la maboulerie, a priori. Enfin, si on peut, mais enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes de moyens de lutte.
Oui, mais une petite parenthèse, ma boulerie, ça tiendrait si l'assassin de Sarah Halimi avait été jugé irresponsable et pénalement non responsable.
Enfin, pour l'instant, il n'a pas été jugé.
Mais il se trouve que l'expert psychiatre a jugé qu'il était pénalement responsable. Donc il y a un procès. Donc maboulerie, je trouve que c'est un terme peut-être un peu exagéré au regard de l'expertise qui elle-même déclare qu'on va pouvoir le juger. Donc il n'est pas si fou qu'il n'y paraît.
Je suis assez d'accord aussi pour dire que même si c'est 10%, c'est peut-être ces 10% qui permettent le passage à l'acte. C'est-à-dire vous avez des gens maboules, comme vous dites, effectivement, qui auraient des envies, des bouffées fous. Qui a des bouffées délirantes et qui passeront pas à l'acte, et que je pense que c'est 10% justement parce qu'il y a un facteur de déshumanisation à un moment donné de la victime, on la voit comme le diable et non plus comme un être humain, c'est ces 10% qui vont faire qu'il va y avoir le passage à l'acte.
– Oui, sauf qu'on ne va pas se battre de la même manière, on va pas essayer de trouver des remèdes de la même manière pour ces différents types d'actes. Et le terrorisme, c'est une catégorie bien à part, avec l'idéologie djihadiste qui va derrière, et avec des personnes qui très souvent redécouvrent l'islam après coup sur les réseaux sociaux. Donc si on veut se protéger, on ne se protège pas de la même manière. Et c'est très difficile de se protéger de quelqu'un qui a des bouffées délirantes. C'est peut-être la chose qui peut arriver n'importe où et n'importe quand.
Je suis assez d'accord avec madame sur une chose. Elle a parlé tout à l'heure de l'antisémitisme du quotidien. C'est vrai qu'on parle des meurtres, des crimes, des assassinats, les choses les plus terribles. Mais finalement, ce qui fait souffrir aussi la communauté juive de France, ce sont les actes du quotidien. Vous l'avez très bien dit, c'est des petites choses banales qui pourrissent
d'accord.
la vie des
Alors,
gens.
Alors sur ce plan, vous n'étiez pas là au début de l'émission. Mais apparemment, en l'état actuel de ce que je sais, les statistiques montrent une décrue progressive.
Et madame l'a expliqué aussi, une décrue
en 2017.
Des menaces. Et une augmentation des actes et des violences. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prévient pas, sale juif, je vais te mettre un coup dans la gueule, je te mets directement un coup dans la gueule. Donc, finalement,
oui, c'est peut-être un petit quand peu plus D'autres chiffres, là, juste pour nourrir le débat. L'idéologie antisémite ne cesse de reculer parmi nos concitoyennes depuis la Seconde Guerre mondiale au point de devenir marginale. 89% des Français considèrent les juifs comme des Français comme les autres. En revanche, les préjugés antisémites, bien qu'en diminution, restent influents. 35% des Français pensent encore que les Juifs ont un rapport particulier à l'argent, 40% que pour les Juifs français, Israël compte plus que la France, ou 22% que les Juifs ont trop de pouvoir.
Pour le coup, ça augmente parce que je me souviens d'une étude il y a une dizaine d'années où c'était particulièrement. Enfin, après, il y a des études, il y en a différentes.
Mais... Là, c'est ma partie. Parce que là, moi, je travaille sur les sondages, hein, ce qui est beaucoup. C'est tout à fait autre chose que ces actes. Si on travaille sur les opinions, grâce au sondage annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on a les données comparables depuis 1990. Et on voit que, d'une certaine manière, la minorité juive est celle qui est la mieux considérée. Et ça monte, ça ne décroît pas l'idée que c'est des Français comme les autres, ça ne forme pas du tout un groupe à part. La religion, on en a plutôt une image positive. Tout ce genre de choses. En revanche, il y a deux stéréotypes parmi les plus anciens, liés au pouvoir et à l'argent, qui, eux, montent et descendent en fonction de l'actualité. Et chaque fois qu'il y a le sentiment, dans l'opinion publique, qu'il y a deux poids, deux mesures. Et donc, on voit une hausse au moment
Qu'est-ce qui peut donner le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures ?
Au moment il y a bien longtemps, quand il y avait l'idée qu'il fallait réparer pour les spoliations subies par les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, on voit monter tout d'un coup le rejet dans ces deux questions, hein, notamment le pouvoir des Juifs. On voit monter le sentiment que les Juifs ont trop de pouvoir quand il y a l'interdiction des spectacles de Dieudonné. On voit monter l'interdiction quand il y a... On voit monter le sentiment que les Juifs ont trop de pouvoir quand il y a l'interdiction des manifs pro-palestiniennes qui, pendant l'été 2014, ont donné lieu au dérapage que l'on sait. Et ensuite, ça retombe à 19-20. Autrement dit, c'est quelque chose qui nous signale autre chose. On ne peut pas dire crûment, ça monte ou ça descend. Sur tout ce qui est posé pour toutes les minorités, français comme les autres, acceptation, ils sont la communauté modèle que beaucoup d'autres minorités envient.
C'est cet aspect concurrence victimaire qui est très important.
Et deux poids, deux mesures.
Non, mais l'aspect concurrence victimaire, c'est-à-dire quand vous voyez qu'on met en avant un sujet sur la Shoah ou qu'on va effectivement indemniser les Juifs 70 ans après, il y a des gens, musulmans ou pas d'ailleurs, qui vont dire, mais moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi ? Moi aussi, j'ai besoin d'être indemnisé de telle ou telle chose. Ou alors, effectivement, c'est là où intervient l'importation du conflit israélo-palestinien. On dit, et les Palestiniens, alors, ça fait 70 ans qu'ils sont réfugiés, on fait rien pour eux, etc. Il faut dire que les Palestiniens, il y a aussi cet aspect particulier qui fait qu'on est réfugié de père en fils, parce que ça a été aussi entretenu par les États arabes. Bon, voilà. Mais donc, il faut quand même en parler du conflit israélo-palestinien.
Justement, on va en parler, puisque le conflit israélo-palestinien s'est invité justement dans les suites de l'assassinat de Mireille Knoll à propos de l'affaire de la Marche Blanche et de la présence de Jean-Luc Mélenchon à la Marche Blanche. Un rappel des faits, peut-être ?
Oui. Alors, cette Marche Blanche en hommage à Mireille Knoll, elle a été organisée en mars dernier par le Conseil représentatif des institutions juives. Mais l'institution s'est tout de suite opposée à la venue de Marine Le Pen, la présidente du Front National, mais aussi à celle du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Et on va écouter justement le représentant du CRIF sur BFM TV qui s'exprimait le 27 mars dernier.
La position du CRIF est claire et connue. Ni Front National, ni France Insoumise, ni Marine Le Pen, ni Mélenchon. Que les choses soient claires, tous les deux sont pour nous des vecteurs de haine dans notre pays. La haine que nous connaissons de l'extrême droite d'un côté, la haine d'Israël de l'autre côté, et qui est aussi la haine des Juifs en réalité, de l'autre côté à l'extrême gauche.
Alors, Sylvain Attal, vous entendez ça, et vous décidez d'aller Monsieur Mélenchon, donc, en dépit de l'interdiction formulée par le président du CRIF, décide quand même d'aller à cette marche blanche, oui. Et vous, vous décidez d'aller l'accompagner.
Oui, c'est une idée qu'a germée avec Gabriel Fary, qui est un ami à moi, qui est rabbin libéral. Parce que je trouve que, si vous voulez, on parlait de silence médiatique dans cette tribune. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de silence médiatique. Ce silence médiatique, il y avait il y a 15 ans, oui, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a plus de silence médiatique. Et que quand on a une occasion comme ça, très républicaine, où on fait... Moi, je suis resté sur l'idée de marche blanche. Après, j'ai eu un échange avec Francis Khalifa qui m'a dit « Non, non, mais on avait changé, on voulait en faire une manif politique. » Je lui dis « Mais ça, personne ne l'a su. Hein. On parlait de marche blanche. Pour moi, une marche blanche, c'est tout le monde vient, il n'y a pas de slogan, et on est tous voilà, dans un recueillement contre l'antisémitisme. » Et quel que soit ce qu'on peut penser, effectivement, de Mélenchon, de Le Pen, etc., on peut en parler, mais je pensais qu'il était important que ce soit ouvert. D'ailleurs, le fils de Mireille Knoll lui-même a ouvert les bras, et je trouvais que c'était une attitude qui était la seule qui convenait. Bon, donc voilà, donc on a eu ce geste qui était un petit peu téméraire, comme ça, qui n'a servi absolument à rien, parce qu'on a été débordé par les gros bras de la Ligue de défense juive.
Vous avez vraiment accompagné pendant toute la
Non, parce que ça s'est passé au début, Mélenchon...
On vous a cherché sur les images, hein, on ne vous a pas trouvé.
Non, mais parce que je ne peux pas être distingué. Voilà, il y a eu une espèce de bousculade. Les policiers sont venus faire un cordon autour des élus parce que c'était eux qui devaient être protégés. Et nous, on s'est retrouvés un petit peu dans ces mouvements de foule un peu rejetés. Voilà. Mais c'était symbolique, de toute façon. On n'avait pas la prétention de faire le coup de poing. Mais en plus, ce qui m'a vraiment, alors là, pour le coup, fait sortir de moi, c'est quand j'ai su, ça s'est passé à un autre endroit de la manifestation, que les mêmes gros bras de la Ligue de défense juive avaient fait une haie d'honneur quasiment à Marine Le Pen pour lui faire faire passer par un autre itinéraire pour l'amener. Bon, c'est ce qu'on m'a raconté.
Gilbert Collard, apparemment, mais pas Marine Le Pen.
Elle a l'air franchement.
Sur le fond, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on a les mêmes qui veulent virer Mélenchon et qui font une haie d'honneur à Collard.
Enfin, c'est ce qu'eux ont écrit, en tout cas. Eux, ce qu'ils ont écrit, voilà, c'est bien de dire ce qu'ils ont dit.
Mais comment on peut interpréter ça de leur part, de la part de la Ligue de défense juive?
Moi, je ne suis pas l'avocate de la Ligue de défense juive. Par contre, si vous me demandez mon opinion là-dessus, je pense que la rue n'appartient pas au CRIF, d'abord. Le CRIF était à l'initiative, mais ensuite tous les partis politiques, c'est devenu une marche républicaine, et je pense qu'il ne faut exclure personne. D'accord. Je pense qu'il fallait que tout le monde puisse y participer.
Quand on n'a pas les moyens de faire respecter une ligne, on s'abstient de la lancer. Ils n'avaient pas les moyens, peut-être parce qu'ils n'ont pas un service d'ordre suffisamment construit.
La Ligue de défense juive
a des accointances avec le Front National. Vous avez un élu du Front National qui les a remerciés pour avoir protégé Marine Le Pen par voie de tweet. Je ne sais pas si vous l'avez retrouvé, ce tweet. Bon. Voilà. Donc il y a des choses. Ils savaient très bien que idéologiquement, c'est très très grave, il y a un petit groupe dans cette communauté juive qui est toléré dans ces manifestations et qui est devenu complètement complice de l'extrême droite.
L'argument donné par le président du CRIF pour interdire Mélenchon, qui est de dire, au fond, derrière le masque de l'antisionisme, on sait bien que se trouve toujours l'antisémitisme. Mais en appliquant ça au discours de la France insoumise et de Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai. Enfin, moi je pense que effectivement, il y a des déclarations de Mélenchon. Par exemple, quand en 2014, justement, on lui dit « Mais vous avez appelé... » C'est le Front de Gauche à l'époque, les Insoumis, ça n'existe pas. Vous avez appelé à cette manifestation contre ce qui s'est passé à Gaza, et il y a eu des slogans « Mort aux Juifs », etc. Et il dit, quelques jours plus tard, dans une réunion à Grenoble, je crois, il dit « Ces manifestants se sont montrés comme des vrais républicains, des vrais Français, et ils critiquent à la place les Juifs français qui partent en Israël, qui prennent la nationalité israélienne, donc c'est pas des gens qui vont... Il fait un parallèle entre ceux qui vont faire le djihad et les juifs qui partent en Israël, prendre la nationalité israélienne, combattent dans une armée sous uniforme.
– Alors ça, c'est une déclaration antisémite à vos yeux,
C'est une déclaration de criminalisation d'Israël en général, qui jette de l'huile sur le feu et qui concourt à faire l'amalgame, effectivement, entre juifs et sionistes, juifs et israéliens. Vous savez, Le Hamas, par exemple,
Sylvain Attal, si vous pensez que Mélenchon jette de l'huile sur le feu et indirectement nourrit l'antisémitisme, pourquoi vous allez le protéger à la marche blanche ?
Si vous voulez, je connais Mélenchon depuis longtemps, j'ai du mal à penser qu'il soit antisémite, donc je pense que c'est quelqu'un qui agit surtout avec des arrière-pensées politiques, qui fait du clientélisme politique, comme beaucoup d'autres hommes politiques. Même si je suis sans aucune espèce d'illusion, je me dis, en allant là-bas, c'est peut-être l'occasion de le mettre face à ses responsabilités. Ok ? Vous voulez venir à la manifestation parce que vous êtes vraiment révulsé contre l'antisémitisme. Vous venez à la manifestation, je trouve anormal qu'on veuille vous en chasser. Mais après, on va discuter. pourquoi vous avez dit ça? Vous avez une responsabilité.
C'est-à-dire
dans ce
que vous vouliez discuter avec lui à la manif? Non, c'était peut-être pas le cadre. Hein.
Après, j'ai fait un papier dans Slate où effectivement, il m'a servi sur un plateau parce qu'il a fait un papier de blog qui était complètement hallucinant où il parle de l'armée israélienne comme une armée de criminels. C'est cette globalisation. Si je suis contre l'essentialisation, dans la tribune, je suis aussi contre l'essentialisation.
Il dit exactement une armée de tueurs.
Une armée de tueurs, voilà.
Moi, je voudrais comprendre, voilà, on est au cœur du sujet, à quel moment cesse l'antisionisme, à quel moment ça devient l'antisémitisme. Ça n'attaque pas les juifs, ça attaque les militaires israéliens. On est bien d'accord.
D'accord, mais quand vous parlez de c'est la seule armée du monde qui est une armée de tueurs, alors que d'abord une armée elle est là malheureusement aussi parfois pour tuer, quand vous dites une armée de tueurs, ça veut dire qu'elle est mue uniquement par l'envie de sang, ça renforce un critère antisémite. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a tout un public pas Mélenchon.
Quelle aurait été une formulation acceptable à vos yeux d'une critique violente de l'armée israélienne qui ne verse pas
d'abord, la première chose, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un papier qui est de Mélenchon, qui revient sur ce qui s'est passé à la Marche Blanche? On parle de l'antisémitisme en France.
Écoutez, il écrit ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est avec quel mot, selon vous, sans verser dans l'antisémitisme, on peut critiquer la politique du gouvernement israélien ou...
On peut dire que, par exemple, elle a fait un usage totalement immodéré de la force, par exemple, à Gaza, disproportionné. On peut dire plein de choses. Ça n'aurait pas besoin d'essentialiser, de dire que c'est une armée de tueurs.
J'ai l'impression que c'est une ministre.
Vous voyez ce que je veux dire?
Sur ce débat, Nona Maier,
c'est compliqué. Si vous regardez le quotidien israélien, le Haaretz, vous trouverez des critiques de l'armée israélienne qui ne disent pas que c'est une armée de tueurs, mais qui disent simplement qu'il y a ici, là, des dérapages et des actes inadmissibles. On peut très bien critiquer, certain nombre d'Israéliens ne s'en privent pas, critiquer la politique actuelle du gouvernement de Netanyahou.
Là intervient peut-être un autre facteur qui est toujours plus difficile de critiquer l'armée de son propre pays. Et
les Israéliens le font sans problème.
Regardez les cinémas israéliens, on parle de ça.
Il est toujours plus facile d'employer des termes violents du genre armée de tueurs sur les armées étrangères que sur les armées de son propre pays. Je veux dire, quel que soit le pays et quels que soient les journalistes.
Voilà. Non, mais d'abord, quand on regarde les opinions, on voit que sionisme, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc si on met critique d'Israël et critique disproportionnée d'Israël, ce qui me frappe, autant ce qui se passe au Proche-Orient a une influence directe sur les explosions de violence et d'agression contre les Juifs, on peut suivre à chaque opération, plan durci, bordure protectrice, autant au niveau des opinions, on voit, l'IFOP a fait un très joli recueil de sondages depuis les années 80 sur l'image d'Israël, autant en 1967 l'image d'Israël était au top, au moment de la guerre des six jours, autant elle s'est progressivement dégradée. Et aujourd'hui, quand on pose une question sur, selon vous, qui a le plus de responsabilités dans la continuation du conflit israélo-palestinien, les Israéliens, les Palestiniens, les deux, on a 63% qui vous disent ils sont autant responsables l'un que l'autre. On a un taux de sans-réponse qui augmente de sondage en sondage. Ce n'est pas le conflit israélo-palestinien qui est au cœur de l'image que l'on a des Juifs de France. C'est quelque chose qui lasse et dont on ne veut plus entendre parler. Pareil quand on pose des questions sur l'image d'Israël. Il n'y a pas une majorité de gens qui ont une image négative. Il y a une majorité de gens qui ont une image... Bouf, arrêtez de nous parler de tout ça. Et quand on regarde ce qui structure l'antisémitisme, ce qui est le plus dangereux, c'est le bon vieil antisémitisme. Les Juifs ont trop de pouvoir, les Juifs ont de l'argent. Et c'est souvent au nom de ces stéréotypes qu'il y a eu des meurtres et des agressions qui ne se terminent pas nécessairement par la mort. Je pense à ce jeune couple à Créteil, je pense à tout un tas de...
Au nom du conflit israélo-palestinien aussi, on sait que Mera, justement, a justifié ces exactions au nom du peuple palestinien.
Le terrorisme, bien sûr. Il a dit qu'il allait venger les enfants palestiniens. Moi, je vous parle de l'agression d'un jeune couple à Créteil en 2014. Ah oui. Là, ce n'est pas au nom du conflit israélo-palestinien. Pour moi, ce qui est le plus important en France aujourd'hui, c'est qu'il faut suivre ces indicateurs-là, ces bons vieils indicateurs.
Les Juifs ont trop de pouvoir, les Juifs ont trop d'argent. Historiquement, c'est de droite. C'est un préjugé de droite et d'extrême droite.
C'est un préjugé de droite et d'extrême droite à
la fin du 19e jusqu'en 40.
Il existe aussi à gauche, même à cette époque-là.
Oui, mais il est beaucoup
plus marqué à droite. Oui, mais il existe aussi à droite.
Et donc, c'est ma question. Est-ce que vous observez un déplacement de ce stéréotype de la droite vers la gauche?
Non. Non. Ce qui est caractéristique, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a une douzaine de questions. Et on peut faire une analyse statistique pour voir qu'est-ce qui colle ensemble au lieu de décider a priori qu'est-ce qui va ensemble. On s'aperçoit qu'il y a un premier facteur qui est vraiment les vieux stéréotypes. Pouvoir, argent, double allégeance, groupe à part. On a un deuxième facteur qui est la critique d'Israël et le sentiment que c'est quand même un petit peu plus les Israéliens que les Palestiniens qui sont responsables de ce qui se passe là-bas. Mais c'est deux facteurs indépendants l'un de l'autre. Et quand on regarde le profil, ceux qui sont sur le premier facteur, c'est des personnes âgées, peu éduquées, de droite et d'extrême droite, et qui ont des scores élevés sur toutes les échelles de racisme. Quand on prend ceux qui sont sur ce deuxième facteur critique d'Israël, c'est pas très fort, hein, c'est image négative d'Israël, et Israël a plus
fort,
de responsabilités.
Sur les réseaux sociaux. Hein.
Non, c'est tout à fait autre chose, bien sûr. Là, il y a des choses bien plus fortes. Moi, je vous parle de la question du sondage.
Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris votre intervention sur les réseaux sociaux.
C'est assez simple, quand vous regardez les commentaires antisémites, on dit pas ça juif, on dit ça le sioniste. Et quand vous regardez, par exemple, les commentaires sur le site du Parisien lié à la parution de la Tribune, on reproche, enfin, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça vient faire là, mais en tout cas, on reproche aux Juifs d'avoir commandité les massacres de Gaza. C'est une rhétorique assez classique,
oui,
justement.
Mais on ne peut pas mettre sur le même plan les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous trouvez des tombereaux de haine déversés sur toutes les minorités, et pas seulement sur les Juifs,
oui,
sur les Noirs, sur les Arabes.
Elles disent quelque chose, elles disent quelque chose.
C'est comme un
important
miroir
de les entendre.
Grossissant, mais moi, je vous parlais des sondages d'opinion, et ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est l'opinion publique. Et l'opinion publique, dans son ensemble, c'est important, parce que dans un pays, c'est ce qui vous dit ce qui est permis et ce qui est interdit. Dans les années 30, c'était légitime de dire des horreurs sur les Juifs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se lâche. Mais dans les sondages, vous voyez bien que les gens sont gênés et que... Attendez, je termine juste sur... Je reviens à ce deuxième facteur, la critique d'Israël, qu'on peut juger ou non disproportionnée. Là, c'est des questions assez neutres. C'est un autre profil. Là, c'est des personnes qui sont jeunes, instruites, qui ont les scores les plus bas sur toutes les échelles de racisme et de rejet des minorités, et qui sont à gauche et à l'extrême gauche. Et en revanche, on regarde que plus on va vers l'extrême droite, là, il y a à la fois la critique d'Israël et l'adhésion à tous les vieux stéréotypes. Ce n'est pas le cas à l'extrême gauche où il n'y a que la critique d'Israël. Je ne parle pas des leaders, je parle de l'opinion publique et je ne parle pas de tout ce qui se déverse sur les réseaux sociaux.
On aborde un sujet qui me paraît extrêmement intéressant, surtout pour Arrêt sur Image et peut-être pour l'homme de médias que vous êtes aussi, qui est la distinction, en effet, entre ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les forums du Parisien, sur Twitter, sur Facebook, et la mesure de l'opinion publique par les sondages. Et on voit en effet qu'on a un décalage important.
Oui, mais ce que dit Nana Meyer me semble important, parce qu'on peut en déduire, par exemple, que le pays rejette effectivement l'antisémitisme. Il est massivement révulsé par ce qui s'est passé. Donc on n'est pas dans un pays, et c'était déjà le cas, je dis, on n'est pas dans un pays qui est devenu antisémite.
Voilà.
Bon. Alors après, les réseaux sociaux, ils agissent sur une partie quand même très particulière de l'opinion, qui va aller beaucoup vers des théories du complot, qui va renforcer ses préjugés par les théories du complot, il y a les fake news, etc., et qui fait qu'il y avait une espèce de boule de neige qui va, à un moment donné, peut-être enflammer certains esprits. Mais, par exemple, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous mettez tout ce qui est préjugé anti-juif dans ce camp un peu décolonial, là, autour des indigènes de la République, avec lequel, d'ailleurs, que Mélenchon ne veut pas dénoncer. Certains insoumis le font, mais lui, il peine à le faire. Alors qu'il y a ces vieux stéréotypes du juif un peu traître. C'est-à-dire, ça remonte, à mon avis, à l'histoire du décret Crémieux. C'est-à-dire, en Algérie, quand la République donne la nationalité française aux juifs, elle ne la donne pas aux musulmans d'Algérie. Depuis cette époque, il y a un peu l'idée que le juif, c'est celui qui est traître, qui s'allie aux colons, qui s'allie à la puissance occupante. Et ça, c'est très fort dans les esprits, particulièrement dans la communauté musulmane.
Le groupe des indigènes de la République, c'est une toute petite chose qui représente...
Mais très influent, parce que derrière ça, il y a des accointances avec Soral, il y a des accointances avec Dieudonné. Ça a un écho médiatique, et vous parlez des réseaux sociaux,
je sais qu'à France 24, vous occupiez de l'Internet et des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas le danger d'être hypnotisé par la petite bande, j'ai envie de dire la petite bande de Twitter et de Facebook,
dont
Nona Meyer nous dit son influence sur l'opinion publique générale est peanuts.
Ben, sur l'opinion publique générale, je ne le nie pas. Mais ça crée quand même un halo autour d'une certaine partie de la population. C'est quand même, même si je suis contre l'essentialisation, les auteurs des crimes antisémites sont presque toujours musulmans ou se réclament de l'islam, à des degrés divers, on va dire. Je trouvais ridicule de vouloir dire qu'il faut amender le Coran parce qu'ils ne sont pas allés chercher leur feuille de route dans le Coran, évidemment. Certains n'ont probablement jamais
lu. Il n'y a jamais été question d'amender le Coran, pardon. Mais non, regardez, mais le texte s'affiche.
Oui. Alors, vous avez signé, il faut que les textes soient frappés d'obsolescence
par les
autorités théologiques.
Voilà, par les autorités théologiques.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais c'est une question de gens disent, c'est une banalité que de dire ça, il s'agit de recontextualiser.
En français, frapper. Alors, ce qu'il faut rappeler d'ailleurs, c'est que la première formulation du texte, hein, c'est ce qu'on a appris dans les jours qui ont suivi le texte, la première formulation du texte parlait d'abrogation de certains versets du Coran.
J'ai pas vu la première version du texte.
Il était question d'abroger. Et puis, si j'ai bien compris, c'est le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui a dit « Non mais abroger, qu'est-ce que c'est que ce délire? Si c'est comme ça, je signe pas. » Non mais si j'ai bien compris, je sais pas, vous avez peut-être…
Si vous dites ça, c'est très bien.
Comment ?
Très bien, bah écoutez, parfait.
Après, ça a été remplacé par cette formulation « frapper d'obsolescence », dont on a du mal à voir ce qu'elle recouvre exactement. Quoi. Ça veut dire quoi, frapper? Comment on frappe d'obsolescence? Qui frappe d'obsolescence?
Ça a été fait par Vatican II pour les catholiques.
Mais il n'y a pas de Vatican,
fait... Non, mais justement, la question, c'est la question là qui est au centre, c'est celle que Macron pose aussi, c'est la question de la réforme de l'islam de France. Oui. Je suis désolée.
Mais qui réforme?
Le président de la République.
Qui a l'autorité de réformer?
Justement, il faut créer justement une institution, comme peut-être on l'a créé avec le consistoire pour les juifs, une institution qui permette de centraliser, qui soit en plus légitime aux yeux de la communauté musulmane. Évidemment, c'est compliqué, on sait que ça va être un terrain assez miné pour le président de la République, mais c'est tout ce que disent ces paroles.
Juste quelques extraits à ce moment-là, puisque sur ce point de savoir si les signataires du manifeste accusaient ou pas les musulmans en général, certains musulmans, etc., ils sont exprimés là-dessus.
Oui, parce que le manifeste a été perçu par beaucoup comme une charge contre les musulmans. Et ce qu'ont réfuté évidemment tous les signataires qui se sont succédés sur les plateaux, on a plusieurs exemples depuis le 22 avril.
Ce n'est pas une guerre des communautés, au contraire. Ce texte est un encouragement, si on le lit bien, c'est un encouragement et une main tendue à ceux des musulmans qui en ont marre de l'antisémitisme qui se réclame du Coran. C'est un geste de fraternité vis-à-vis des musulmans démocrates.
Non, ce n'est pas une attaque contre les musulmans, c'est une attaque contre la dérive intellectuelle de certains musulmans.
Nous n'appelons pas du tout à la stigmatisation, nous appelons au contraire à l'insurrection des bonnes volontés. Et dans ces bonnes volontés, les musulmans réformateurs, les musulmans libéraux, les musulmans éclairés sont évidemment d'accord avec nous.
Sylvain ?
Bon, je suis certain que bon nombre des signataires sont de bonne foi. C'est vrai qu'il y a un problème parce qu'on sait que dans l'islam, il n'y a pas de discussion sur les textes saints, que le Coran c'est la parole de Dieu, alors qu'on discute des évangiles, on peut discuter même de la Bible, de la Torah. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a des choses très très violentes aussi dans la Torah,
Bible.
Et dans la Bible. Ce que je me suis dit, c'est si vous commencez à toucher auprès de cette population, parce que peut-être que ce n'était pas le but recherché, mais moi j'ai eu des retours de gens de culture musulmane, on va dire même pas forcément très pratiquants, qui ont été blessés, parce que c'est quand même quelque chose auquel ils sont attachés, le Coran, par leur éducation, par leur culture, etc. Il y a des choses horribles dans le Coran, évidemment, comme il y en a dans beaucoup de livres saints. Mais je me suis dit surtout, c'est complètement, excusez-moi, débile de dire il faut frapper d'obsolescence. Enfin, le Coran, moi j'en reste à la position, si vous voulez, on est dans une république laïque. Il peut y avoir écrit ce qu'on veut dans le Coran, ou dans la Bible, ou dans la Torah, ou dans les évangiles. Dans une république laïque, ce qui compte, c'est qu'on mette au-dessus de tout ça les lois de la République. Elles sont au-dessus de tout ça. Et c'est le problème, d'ailleurs, justement, Nona Maier, je pense, dans les études, c'est qu'on voit quand même que cette idée que les lois de la République sont au-dessus des textes religieux, elle passe assez bien pour les protestants, les catholiques et même les juifs, elle passe moins bien pour les musulmans. C'est-à-dire...
Ça dépend lesquels.
Dans des sondages, voilà.
Le problème, c'est que beaucoup de sondages auprès des musulmans vont dans des quartiers sensibles et on a beaucoup de mal ensuite à voir ce qui est lié au fait d'être musulman, d'être jeune, d'être sans instruction, d'être ouvrier. Et qu'on manque d'études. Oui, non, mais on manque d'études qui nous permettent de faire la part exacte de ce qui est l'influence de la religion. Il y a beaucoup de mauvais sondages, et sur les juifs, et sur les musulmans, parce qu'on n'a pas assez de monde et qui arrive à faire la part. On peut être Il y a des tas de manières d'être juif et musulman. Effectivement, sans être religieux, sans être pratiquant. Donc, cette espèce d'essentialisation des musulmans, quant à la religion, quant au texte, le Coran, c'est un peu naïf de croire qu'il suffit d'enlever un verset. Je veux dire, à ce moment-là, on peut, ça n'a pas de sens, parce que la plupart des gens qui agissent au nom de l'islam radical ou de l'islamisme radical, ils n'ont pas lu le Coran. Ils en lisent une version qui est très spécifique, très spéciale sur Internet.
Enfin bon, sur cette histoire de frapper, ouais, sur cette histoire de frapper d'obsolescence, bon, ouais, enfin, tout le monde, enfin, oui, c'est sans doute débile de vouloir frapper d'obsolescence, mais ce que vous disiez, c'est que avant tout ça, il y a un stade préalable qui est l'institution d'une organisation légitime.
Et ça fait, c'est dans les cartons du président de la République.
Et j'ai envie de vous dire, bonne chance et vaste programme.
Oui, bah, venez peut-être.
Le président de la République, il faut que ça vienne. Comme la lettre des imams, la lettre collective.
Mais une chose quand même, c'est que moi, ça me terrifie. J'ai l'impression qu'on est en train de rétablir le délit de blasphème. C'est-à-dire que je suis désolée, on ne peut plus rien dire sur la possibilité.
Sur ce plateau, on peut tout dire.
Bah, c'est parfait. Alors allons-y.
Il y a des choses horribles encore.
Et d'ailleurs, non, mais Tarek Obrou a parlé de blasphème. Moi, ça me terrifie. Je veux dire, vous parlez d'une société républicaine, mais justement, une société républicaine, elle peut se permettre de critiquer les religions. Elle peut se permettre, et toutes les religions, c'est très important, y compris le judaïsme, y compris peu importe. Et si on ne peut plus le faire parce qu'il y a des susceptibilités, et ben là, je suis désolée, on n'est plus dans une société républicaine.
Et
c'est terrible. Et pour moi, je trouve ça mais scandaleux. D'ailleurs, il y a le livre de Anastasia Colosimo, Les bûchers de la liberté, qui est extrêmement intéressant, que je vous invite à lire, qui est paru chez Stock, et qui décrit très bien la façon dont, justement, au fur et à mesure, on rétablit le délit de blasphème avec des lois, comme y compris la loi Guesso, etc.
On ne peut plus rien dire. Je ne sais pas très bien, moi, ce que veut dire cette phrase. Le manifeste est paru dans Le Parisien, le livre est sorti, il sera peut-être très bien vendu. Tous les médias se sont emparés de ce livre. Enfin, j'ai pas le sentiment de vivre dans un pays dans lequel on peut plus rien dire. Je veux dire.
Les critiques sont étonnantes. En tout cas, c'est-à-dire qu'elles ne concernent pas le fond. Elles disent nous avons été blessés. Ouais. C'est une part de susceptibilité, de quelque chose d'extrêmement subjectif.
Faire des caricatures contre Mahomet, on a vu ce que ça a donné à Charlie Hebdo.
C'est très subjectif et il faut faire très attention avec ces choses-là.
C'est presque un blasphème.
Ouais. C'est presque un peu. Très bonne remarque. Alors, attention de ne pas dénaturer Madame la journaliste. Chère consoeur, attention de ne pas dénaturer.
Oui, mais en République, il n'y a pas de blasphème, c'est tout. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on termine par cet antisémitisme d'extrême droite, ou d'origine d'extrême droite et de droite en France d'aujourd'hui, dont vous nous avez dit qu'il était aujourd'hui le nid principal dans les sondages du préjugé antisémite. On est bien d'accord, on est toujours sur le vieux préjugé, les juifs ont du pouvoir, les juifs ont de l'argent.
Oui. Les sondages, de toute façon, plus vous vous situez à l'extrême droite, plus vous dites proche d'un parti comme le Front National, quand on regarde non pas la tête, parce que Marine Le Pen, elle essaie au contraire d'attirer le vote de la minorité juive en leur disant « nous sommes pour vous un rempart contre l'islamisme radical ». Donc laissons de côté Marine Le Pen. Mais si on prend les personnes qui se définissent comme proches du Front National ou qui se situent à l'extrême droite, elles, dans toutes les enquêtes que j'ai faites avant et après l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de ce parti, elles ont les scores les plus élevés de très loin sur toutes les échelles, contre les Roms, contre les Arabes, contre les Juifs, contre les musulmans. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas changé.
– Alors est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, comme ça a été dit sur les réseaux sociaux tous ces derniers jours, que cette polarisation sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme, antisémitisme d'extrême gauche, ou sur l'antisémitisme d'origine musulmane est une manière de masquer ou de ne pas voir la persistance du vieil antisémitisme d'extrême droite. Est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Non, je pense qu'il faut voir tous les aspects du phénomène et qu'il faut regarder.
– On parle plutôt de
mais qu'on ne peut pas oublier, je dirais plutôt, dans cette polarisation autour de l'islamisme radical, il ne faut pas oublier que ce qui nourrit encore au niveau des opinions le plus grand nombre d'antisémites, c'est les bons vieux préjugés antisémites et on les retrouve beaucoup plus à l'extrême droite. – Oui, mais on ne peut pas mélanger les actes et les opinions, c'est deux logiques complètement différentes. –
Je trouve ça très important, au contraire, justement, de
les délier. – Mais dans le passé, c'est les autres qui ont plutôt tué. Alors, juste, je voudrais, parce que ce vieil antisémitisme d'extrême droite, on l'a vu ressurgir aussi ces derniers mois dans les milieux culturels et les milieux de l'édition à propos de deux affaires distinctes.
Oui. Alors, la question s'est posée d'abord en janvier dernier, lorsque Gallimard a décidé de rééditer les pamphlets antisémites de Céline. Ça a déclenché une grosse polémique et Gallimard a été obligé de faire marche arrière. Je vais vous citer un extrait d'un de ses pamphlets, Bagatelle pour un massacre.
Pour qu'on sache de quoi on parle.
Très violent, donc ça va être très court. La guerre pour la bourgeoisie, c'était déjà bien fumier. Mais la guerre maintenant pour les juifs, je ne peux pas trouver d'adjectif vraiment assez glaireux. Que veulent-ils les juifs? Qu'on aille se faire buter pour eux?
Voilà, donc, alors, protestation, Gallimard a reculé.
Et, tout à fait.
Et, pour l'instant, pour l'instant.
Ça va se faire, oui. C'est sûr. J'ai vu Pierre Assouline, il m'a dit que c'était dans les cartons. Mais bon, pas c'est, du tout
oui, mais fait, c'est, vous savez, les trucs qui sont dans les cartons, ils peuvent y rester un certain temps dans les cartons. Oui, alors, deuxième affaire.
Toujours en janvier 2018, c'est la présence du penseur antisémite Charles Maurras dans le livret des commémorations nationales 2018 qui a également provoqué un tollé sur la pression de nombreuses associations et de personnalités. Le gouvernement a fini par le retirer du registre officiel.
Alors, je vous ai entendu dire tout à l'heure, oui, mais ce n'est pas eux qui tuent. Enfin, je veux dire, c'est l'antisémitisme islamisme qui tue. Oui, enfin, ceux-là, ils ont quand même bien tué. Enfin, je veux dire, ils ont...
Ah oui, non, mais moi, ouais. Mais alors, non, mais, vraiment, il ne faut pas faire de révisionnisme historique. Si vous commencez à vouloir interdire des textes, vous allez interdire Bernanos, vous allez interdire énormément d'écrivains qui ont compté dans l'histoire de la France. Je ne dis pas... C'est antisémite, virulent, c'est vraiment délirant, ça crève d'antisémitisme, ça c'est une chose, on est tous d'accord là-dessus. Empêcher une réédition, mais on va faire quoi? On va réécrire le nom des rues, on va interdire, enfin je veux dire, cette logique.
Il n'y a pas de rue Céline et il n'y a pas de rue Maurras.
Oui, mais
il y a des
rues avec des noms de gens qui étaient racistes, parce que je veux dire, c'est une logique globale, hein. On réécrit l'histoire.
Il ne s'agit pas de l'interdire. Si un éditeur veut les éditer, il le fera. On peut appeler à sa responsabilité, on peut dire simplement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on dit, moi j'aime beaucoup Le Voyage au bout de la nuit, par exemple, et beaucoup d'autres livres de Céline, mais est-ce que vraiment ça a un intérêt de rééditer ça, peut-être pour quelques chercheurs, effectivement, mais qui pourront toujours le trouver.
On le trouve,
hein, voilà. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça entre n'importe quelle main, même si je sais qu'on va vous dire, on va mettre une édition annotée, etc. Je trouve que ce n'était pas une très bonne idée. Et sur Charles Maurras, effectivement, moi je suis très vigilant là-dessus. C'est pour ça que si vous regardez ce que dit Marine Le Pen, effectivement, sur... on ne peut pas lui trouver de l'antisémitisme dans ce qu'elle dit. Elle est hyper en plus pro-israélienne, donc hyper pro-sioniste, etc.
Elle a dit que l'Holocauste est le summum de la barbarie.
Voilà, vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut lui trouver. Mais il ne faut pas oublier quand même
l'histoire
et ce qu'elle a derrière elle, que dans le Front National, il y a encore tous les gens qui se continuent à se réclamer. Par exemple, de Charles Maurras, effectivement, dont les écrits antisémites, il y a une tentative de réhabilitation de Maurras qui est évidente et à laquelle il faut être vigilant.
Il y a tout ce qui est en train de se passer en Europe centrale, en Europe post-communiste. Absolument. Dans laquelle, en Pologne, en Hongrie, et là, avec ces fameux sondages, vous voyez une montée de l'antisémitisme.
Juste en deux mots, ce qui se passe en Pologne et en Hongrie.
Vous avez des régimes qui sont des régimes de démocratie dite illibérale, mais dans lesquels on entend de plus en plus des voix qui s'élèvent pour réécrire l'histoire, pour faire du négationnisme, du révisionnisme.
Alors, précisément, par exemple, en Pologne, à propos de l'antisémitisme.
Eh bien, moi, je parle simplement de ce que je connais, c'est-à-dire au niveau des sondages. Chaque fois qu'on fait des sondages, c'est en Pologne et en Hongrie que le taux d'adhésion au bon vieux stéréotype antisémite du pouvoir et de l'argent est de très loin le plus élevé.
Juste pour revenir sur l'affaire Maurras, si je puis dire, en fait, il y a une très bonne tribune dans Le Monde qui est parue de Jean-Noël Jeannonet qui expliquait très bien qu'il ne s'agissait pas...
Donc Jean-Noël Jeannonet, membre du comité des commémorations, qui avait inscrit Maurras dans l'agenda des commémorations
en
2018.
Et qui fait une distinction entre commémorer et célébrer. C'est-à-dire il n'était pas question de célébrer Charles Maurras en tant que personne influente, intéressante et dont on devrait tout connaître, etc. Il s'agissait au contraire de commémorer son histoire, justement ce qu'il a fait et si au contraire il faut connaître l'histoire. Moi je pense pas
j'ai juste une question là-dessus, ouais. Puis on va terminer là-dessus parce qu'on a déjà été très long. S'il s'agissait de commémorer et de pas célébrer, pourquoi commémorer la date de sa naissance? Et pourquoi ne pas commémorer, par exemple, la date de son procès et de sa condamnation pour trahison?
Je vous pose la question. Je vous réponds. Ce fameux recueil, il commémore aussi l'inventeur des boîtes de conserve. Oui, monsieur. Ça montre bien que dans ce petit livret...
Ce n'est pas une réponse à ma question sur Maurras. S'il fallait le commémorer, pourquoi pas commémorer sa condamnation?
Mais il s'agissait,
en 1945, pour trahison.
Mais tout simplement, c'était un anniversaire comme un autre.
Le procès aussi.
C'est un hasard. Si vous regardez le nombre de choses qui sont commémorées cette année-là, oui. vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une obsession ouais. antisémite. Je pense que ça a été très mal interprété. Et encore une fois, je ne suis pas si on, là si à défendre
Maurras.
Si
on veut connaître Charles Maurras, sa vie, son œuvre, il y a des tas de livres, de monographies sur Charles Maurras. Ces livres, on peut les trouver. Il n'y a pas besoin de commémorer pour, si on s'intéresse
à cette histoire, en tout cas, c'est très important. Qu'on y adhère ou non, il faut connaître l'histoire.
Très bien. Sur cette constatation que personne ne contestera, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je pense qu'il était important de la conclure effectivement sur l'antisémitisme de l'extrême droite. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.